Alors, il s'agit d'une installation de Pascal Martin Taillou, qui est d'origine camerounaise, se trouvait à Ouida, au Bénin. Vous avez entendu parler du Bénin? Alors, au Bénin, il y avait donc à Ouida, qui était une ville comptoir, une ville où on achetait des esclaves, entre autres, parce qu'on ne vendait pas que ça là-bas. C'était aussi une ville de départ pour les esclaves qui étaient acheminés ici, là, en Amérique. À Ouida, il y avait cet arbre, pas le même, hein, d'accord. Donc tous ces objets-là sont plutôt traditionnels de l'Afrique. Et dans les sacs qu'on voit là, on voit des cheveux. Vous voyez qu'il y a des cheveux qui sont accrochés au sac.
En 1848, la Deuxième République abolit l'esclavage. Et donc, elle abolit l'esclavage et elle inscrit ce geste-là dans son récit mémoriel. C'est le récit abolitionniste avec son animal totémique qui était Shelcher. Shelcher devient l'animal totémique autour duquel va s'articuler le rapport à la citoyenneté française. Lorsqu'on commémore l'abolition de l'esclavage, oui, on doit commémorer sans doute la République. Oui, sans doute, on doit commémorer les combattants de 1802. Les gens se sont battus dans le système-là, mais nous disons que nous devons honorer. Et non pas nécessairement. Il faut honorer la République, mais à quel moment on honore nos parents qui ont été victimes de ça? À quel moment on honore les victimes de ce crime contre l'humanité que fut l'esclavage? Il y a eu les monuments aux morts après la Première Guerre mondiale. Il n'y a aucun monument dans l'espace public, dans toutes les communes, 32 communes de la Guadeloupe, sur la mémoire de ce crime contre l'humanité, qui était l'esclavage colonial, et aucun lieu pour honorer la mémoire de nos parents. Nous voulons que dans chaque commune de Guadeloupe, il y ait un lieu de mémoire. Le cimetière, il part d'ici, il va sur 40 mètres de profondeur et 200 mètres jusqu'à l'entrée de la plage. Voilà le cimetière. C'est-à-dire que ici, il y a une histoire, c'est qu'on a exhumé des sépultures ici. Donc ça a fait une excavation. Donc c'est pour ça qu'on s'est implanté ici. Il n'y a plus de sépultures en bas là, c'est fini. Mais les sépultures commencent à partir du poteau et elles vont jusqu'à l'entrée. Et ils ont exhumé 272 sépultures et ils ont fait une série. Alors 272 sépultures, 166 adultes et 66 enfants. Et ils ont fait des études dessus et au bout de ces études, ils se sont rendus compte que les populations qui avaient été enterrées dans ce site-là, le site de cette marguerite, étaient des populations pauvres, démunies. Parce qu'ils avaient, en tout cas c'est ce qu'a révélé la science, des stigmates d'une grande pauvreté, d'une grande précarité. À la fois en termes de mortalité infantile et aussi en matière de maladies très spécifiques comme la tuberculose osseuse, comme des stress qui ont montré qu'il y avait des arthroses cervicales sous des sujets extrêmement jeunes, ce qui montrait qu'on avait des gens qui avaient été vraiment abîmés, hein, abîmés, et on va dire abîmés par le travail. Et voilà une maison des morts qui est complètement pas construite, comme si les gens qui sont enterrés là n'étaient pas de véritables hommes. Et donc par conséquent, il n'y a aucun signe visible, sinon, comme Pierre Tombal, des résiniers bord de mer, des cocotiers. Et donc l'idée pour nous, c'est justement de faire comprendre que les gens qui ont souffert de ça, c'est pas des extraterrestres quoi, c'est pas des martiens, c'est des gens qui ont bien vécu ici. Et si à regarder un petit peu plus, ces gens-là, on a peut-être un petit rapport avec eux quand même. Peut-être que si on remontait en généalogie, on comprendrait que finalement ce sont nos parents, tout simplement. Et c'est pour cela que nous, l'association que je représente, la Moubayo, a décidé, avec ses moyens très simples, de prendre position, de prendre possession de celui-là, et petit à petit de le marquer comme on peut, avec les moyens du bord, et pour faire savoir aux Guadeloupéens et aux gens du monde, qu'au fond, il y a un lieu. Et que nos parents, ceux-là, on doit honorer leur mémoire et les sortir de l'oubli dans lequel l'histoire les avait plongés. Le père là-bas disait, il faut 7 jours pour fabriquer un esclave. Et on est dans le mythe, on est dans nos écritures, j'ai envie de dire. La culture locale a répondu par 7 rythmes du ka. Le ka, c'est la musique, le gros ka, c'est la musique traditionnelle. Il y a 7 rythmes de ka. Donc nous, on a joué sur le chiffre 7 à partir de la phrase du père là-bas et de la réponse culturelle que nous avions donnée, parce qu'ils ont inventé une forme musicale qui s'appelle le gros ka, qui a 7 rythmes. Donc c'est pour ça qu'on a mis 7 poteaux. Et le chiffre 7, pour nous, c'est la réponse au père là-bas. Donc c'est un site de résistance. Et ce qui est important, c'est que la Moubayo, à travers le temps, a su influencer suffisamment, je dirais, l'opinion publique pour que le récit mémoriel qui devient de plus en plus dominant dans ce pays-là soit un récit mémoriel qui consiste à dire que lors des commémorations de l'abolition de l'esclavage en mai en général, nous n'honorons pas nécessairement la République, nous n'honorons pas nécessairement les combattants de 1802, de la révolte anti-esclavagiste, nous avons envie de dire très clairement que nous honorons nos héros familiaux, c'est-à-dire nos parents. Certes, on a fait le Memorial Act, c'est une œuvre extraordinaire, ce qui a coûté très cher, et qui nous propose un récit mémoriel particulier, mais pas celui que nous on cherche. Il ne nous propose pas un processus d'affiliation. Nous ne sommes pas dans la même, on n'est pas opposés, mais ce n'est pas notre lecture, c'est de dire il faut que les gens, sur des choses très simples, se situent, à partir de quel lieu ils parlent, qui sont-ils. Donc on est vraiment dans cette logique entre mémoire, identité et affiliation. Vous voyez des gens qui portent des caissons. Ici, là, nous sommes au départ de la manifestation. Nous sommes au musée de Gare Claire. À l'occasion de notre cérémonie du 27, 7 sépultures, je reviens à notre sont exhumées justement de cette collection, sont présentées à la population par des porteurs de l'association. Et là, il y a une explication scientifique. On travaille avec les archéologues parce que nous, on tient à cette relation quand même très fondamentale avec la science. Les archéologues viennent donner les synthèses parce que chaque année, ils évoluent dans leurs recherches. Donc d'abord, on a un temps profane où les gens, le scientifique, l'archéologue, il explique un petit peu la situation. Il explique à la population ce qu'ils ont trouvé. Ensuite, nous, on passe du stade, toujours au musée de Gare Claire, au stade d'ossement, de sépulture, au stade de relique familiale. Et à ce moment-là, on commence le rituel. Et on explique comment la Moubayo envisage et qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce que représente pour nous ces gens-là. Et donc on fait une marche de 7 km. Je reviens au chiffre 7. Une marche de 7 km. Une marche populaire. On part du musée de Gartier qui est à 7 km en amont. Et on arrive ici. Première séquence, c'est l'hommage aux déportés africains. Donc on le voit ici. On a une corbeille de fleurs et tous les gens qui le souhaitent suivent les maîtres de cérémonie et vont donc jeter des fleurs dans l'océan en hommage à ces déportés africains qui sont morts dans l'Atlantique. Le fait que nos parents sortent enfouis qu'ils étaient de la mémoire, on les met au jour. Et pour les honorer, c'est leur jour, donc on les honore. Ensuite, nous avons ce moment important où tout le monde se serre la main et pendant une période rythmée par 7 secondes, nous rentrons en connexion avec nos aïeux. Ensuite, les témoignages. C'est le moment fort, en fait. Pour nous, c'est le moment fort où les gens, quels qu'ils soient, viennent, ils retirent leurs chaussures, ils viennent ici, ils témoignent de leur rapport avec leur aïeul méconnu. Et chacun dit ce qu'il ressent. Je peux vous dire que c'est un moment étonnant, mais il y a même des gens qui ont eu des trans ici, parce qu'ils étaient très sensibles à cette affaire-là. Et chacun dit ce qu'il pense, il y a des enfants qui viennent témoigner. Et lorsqu'on a fini ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que on va, chacun est parti, chaque pèlerin en gros, est parti du musée de Garoquet avec une petite pierre dans sa main, symbolisant son aïeul. Donc ces pierres-là, sont des pierres que tous les pèlerins de notre marche sacrée portent en eux. Ils partent à, ce sont des pierres qu'on met au musée de Garoquet, et chaque personne qui le souhaite, ce n'est pas une obligation, prend une pierre. Et je peux vous dire que tout le monde prend sa pierre. Car la pierre symbolise, cette pierre symbolise l'aïeul, notre aïeul, notre filiation de parents qui ont été victimes de l'esclavage. Nous n'avons plus honte d'eux, nous les honorons. Donc c'est une façon d'inverser le système et d'engager les gens dans un processus symbolique d'affiliation. Il n'est pas question pour nous à Moubayo que les ossements de nos aïeux restent entreposés au musée de Garoquet. Donc ce qu'on a demandé, c'est qu'ils soient rétrocédés dans un premier temps, et ensuite, à l'occasion du nouveau cimetière que la ville du Moulin est en train de construire, que nous puissions réaliser un ossuaire mémoriel dans lequel nos parents seraient entreposés, où il y aurait effectivement une œuvre culturelle réalisée pour symboliser leur présence, pas forcément ici, parce qu'on maîtrise, parce que ici on a un problème avec la mer, donc on veut les protéger, et ce serait d'ailleurs le premier ossuaire mémoriel de l'espace afro-américain. Il y a eu celui de New York, le Memorial Ground Slavery de New York, mais ce qu'on veut faire, nous, c'est ramener nos parents dans notre cimetière à nous, au cœur de notre cimetière d'aujourd'hui, pour que les gens n'oublient pas.
Alors, par exemple, les sépultures du site dans Sainte-Marguerite sont conservées dans ce secteur-là du dépôt archéologique. Mmh. Voilà, donc elles sont conditionnées selon les normes en vigueur concernant le mobilier archéologique. Là, on a par exemple sépulture 1, sépulture 115. Alors, on peut essayer de sortir. Alors, ce que je vous propose, voilà, c'est pas trop très lourd. Par exemple, vous avez les ossements d'une main. Là, ici, c'est ce qu'on appelle l'aile iliaque, hein, qui correspond au bassin. Là, vous avez les olons, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, ce sont les fémurs, les tibias. Voilà, donc, lorsque les anthropologues prélèvent une sépulture sur le terrain, en fait, ils enregistrent tous les types d'ossements et les classent par catégorie au prélèvement. On peut regarder dans la boîte du dessous. Vous voyez, il y a d'autres ossements, alors, qui doivent correspondre à la partie supérieure. Alors, par exemple, c'est toujours la même sépulture. Donc, par exemple, vous voyez ici, vous avez les vertèbres qui sont les vertèbres lombaires. Généralement, c'est Monsieur Romond qui vient pour présenter des caisses d'ossements, comme ça, qui fait une explication archéologique, anthropologique sur les restes, et ils sortent des caisses, mais il n'y a que lui qui manipule les ossements et les caisses, et ensuite ces caisses sont rentrées dans le dépôt, c'est-à-dire que les gens de l'association assistent à cette présentation mais ne touchent pas le matériel et ne le déplacent pas. C'est plus une forme de marche symbolique, en fait, de venir au dépôt, de voir le matériel, puis d'aller ensuite sur le cimetière. Donc, en général, on essaie de sortir des caisses, vous voyez, comme ça, où il y a un individu qui est complet. Alors, nous arrivons à Raisin Clair. Voilà, c'est ici. Vous voyez, donc là, vous avez le mobilier archéologique, par exemple, qui vient des sépultures, qui peuvent être, par exemple, comme des boutons de vêtements qui sont conservés. On peut trouver aussi des épingles de linceul ou des petits objets qui étaient en fait inhumés avec le défunt. Alors, je pense que les boutons doivent être ici. Alors vous voyez, il est un petit peu cassé, c'est un bouton en os. Je vais essayer de le sortir comme ça. Alors vous voyez, c'est un seul trou au centre. Alors il manque un petit fragment du bouton. Ça, il manque un côté, ça doit coller à peu près comme ça. Après, c'est des cimetières qui sont immenses, qui peuvent conserver plusieurs milliers d'individus. Donc l'idée, ce n'est pas de vider le site, hein, c'est d'avoir à un moment donné un échantillon représentatif pour pouvoir le comprendre et l'interpréter. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'en effet, il y a un phénomène de houle. Vous voyez sur cette photo, on voit le fond d'érosion et on voit la houle qui peut venir jusqu'au pied du fond d'érosion. Donc ça, c'est le moment où la marée est la plus haute, c'est vers les mois de novembre. Donc on a fait également installer plusieurs panneaux comme ça pour en fait alerter les gens sur le fait qu'il ne faille pas voyez, franchir la barrière pour protéger le fond d'érosion. Donc qui est là, vous voyez, notre coffrage géotextile en fait emballe cette zone là. Et là on comprend très bien que si on circule ici et que ça s'effondre, et ben on détruit les sépultures. Des touristes qui vont à la plage, en fait, qui traversaient et passaient par ce petit talus en sable. Et donc au bout d'un moment, ça fait une espèce de petite descente voilà, par lesquelles les gens passent. Et à ce moment-là, les sépultures qui étaient en coupe sont érodées et on retrouvait avant des ossements sur la plage. C'est quand même efficace, je me rends compte que les gens ne passent plus par là. Et on n'a plus, vous voyez, des espèces de traces de descente. Là, il y a peut-être eu une tentative de passage, vous voyez. Mais globalement, la situation s'est bien améliorée par rapport à ce que c'était avant. Alors ça, c'est quand même un dispositif, on va dire, temporaire, sachant que ce dispositif, il faut qu'il soit agrémenté d'un dispositif pérenne, c'est-à-dire un système en mer qui coupe la houle. C'est une évidence pour tout le monde qu'il faut protéger ce site. Et voilà, c'est un des sites emblématiques de la Guadeloupe. C'est pas non plus admissible d'avoir des ossements humains qui traînent sur une plage. Donc tout le monde a bien compris les problématiques et les enjeux. Et c'était évident qu'il fallait intervenir et faire quelque chose. Alors les zones de recrutement pour un cimetière, c'est où on inhume qui ? C'est-à-dire dans les cimetières en métropole, par exemple, il va y avoir une zone réservée aux enfants, aux périnatos, aux bébés. Il va y avoir une zone réservée, bah, par exemple, aux gens dont on ne connaît pas l'identité. Ça va être la fosse commune. Et puis après, il va y avoir des tombes voilà, qui sont des tombes individuelles. Comme ces cimetières sont enfouis, on n'a plus d'informations sur leur fonctionnement originel. Et comme on ne différencie pas les populations noires des populations blanches d'après les ossements, c'est difficile de déterminer quel était le type de recrutement dans tel ou tel endroit du cimetière. Bah, ce que ça nous raconte, c'est que les populations sont... les esclaves sont inhumés comme les libres. C'est-à-dire qu'ils sont dans les textes, on sait que les esclaves sont baptisés et les rites funéraires, c'est-à-dire être enterré en décubitus dorsal, orienté, c'est les mêmes pratiques funéraires qu'on trouve en métropole. Donc ils sont inhumés de façon chrétienne comme les colons à l'époque. Nous, ce qu'on retrouve avec l'archéologie, c'est des ossements humains, hein, avec des sépultures. C'est difficile de dire, de déterminer le statut des gens. Alors, il y a certaines sépultures qui sont faites en pleine terre, d'autres individus qui sont dans des cercueils. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà une distinction. Quelqu'un qui a les moyens d'avoir un cercueil, c'est différent de quelqu'un qui est inhumé directement en pleine terre. Les anthropologues qui font de la biométrie, qui étudient les pathologies, tout ce qui est traumatisme, ont mis en évidence par exemple des fractures de fatigue. C'est-à-dire quand un os est trop sollicité, il se brise. Des usures au niveau des articulations. Donc ça, c'est des indicateurs d'un individu qui a beaucoup travaillé, trop travaillé. Et après, il y a certaines pathologies qui peuvent révéler certaines maladies, comme la tuberculose, des choses comme ça, qui permettent d'évaluer l'état sanitaire de la population. Il faudrait encore pousser ces analyses. Et en ce moment, il y a des comparaisons qui commencent à être faites avec la métropole pour justement essayer d'évaluer les différences entre une population du XVIIIe siècle en métropole et aux Antilles.
Et aujourd'hui, nous sommes là pour les marrons, les nègres marrons. Donc, encore merci. Avant d'aller rencontrer le maître à manioc qui va vous emmener dans ce monde, nous allons d'abord partager quelque chose de très connu, de l'eau de coco, pour basotte force pour entrer au monde. La première clé là. Moi aujourd'hui, je voulais partager un petit peu d'eau de coco avec vous. Vous êtes pénis plus force pour entrer dans le monde des marrons. Alors, tout ça qui n'est pas un balayo, en cas de votre petite potion d'eau de coco. Et avec plaisir, tous ceux qui veulent l'eau de coco. Et bien ça, c'est que vous avez même un vieux bois de l'eau.
C'est bon, c'est pour la petite.
Donnez-moi vos noms.
Laurence.
Donc on a déjà fait une première chose, c'est qu'on a pris connaissance un peu de leur tradition en faisant comme eux et en cherchant à fabriquer nos éclairages, donc notre châle tounée. Donc c'était la première chose. Vous avez eu droit aussi à la potion. Donc théoriquement vous êtes armé et prêt pour entrer dans ce monde-là. Et puis on va partager autre chose, ce qui va nous permettre de nous lier entre nous, de nous lier à la forêt qui va nous accueillir ce soir, et puis de nous lier au monde des marrons également. Alors je vais vous donner le petit sésame, qui est tout simple, ça constitue en un bout de tissu. Et donc vous aurez le choix, vous pouvez vous l'accrocher où vous voulez, donc autour de la tête, du poignet, ou comme vous voulez. Et c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans le monde des marrons, et puis de connaître un peu plus de leur histoire, puisqu'elle est assez méconnue. Si tu veux bien m'aider, je suis gentil. N'hésitez pas à vous rapprocher pour mériter votre sésame.
Ouais.
Donc un petit bout de tissu pour chacun et vous l'accrochez exactement où vous voulez. Ce soir, on a l'honneur d'être guidé par David Nazer, le marron expert. Marron expert, et donc je vais lui passer le flambeau justement pour que... qui vous mettent en état pour pénétrer le monde des marrons.
Donc David Nazer, je suis un accompagnateur en montagne. C'est un métier que je fais depuis maintenant plus de 20 ans. Plus de 20 ans hein, que je fais ce métier-là, ça. Et c'est un métier que j'aime particulièrement. Je commence généralement petit, hein. Je suis quelqu'un de très timide, donc vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux. Donc ramotez l'impression, mise à mise. Ok. Aujourd'hui, donc, on va parler du marronnage ensemble et des différents types de marronnage qu'il y a eu, comment ça se passait, où est-ce que ça se passait. On va essayer de rentrer vraiment le plus dans les détails possibles, d'accord? Mais pour le marronnage, pour ma petite histoire à moi, hein, comment ça a commencé, ils ont tous déjà songé film là ça, dans les années 80, il y a un film particulier qui arrive à la télé. À l'époque, on avait une seule chaîne, donc je n'ai pas obligé de songer ça. C'était quoi? Racine, Kunta Kinte. Elle avait Kunta Kinte. Ce film-là, ça, il m'a beaucoup marqué. Alors déjà, comme je le disais, à l'époque, il y avait une seule chaîne. Donc bon, généralement, on était tous devant la télé le soir, notamment le samedi, le dimanche. samedi c'était Dallas, dimanche c'était Dynastie. C'était ça à l'époque. Hein. Et bon, il est arrivé donc une série, donc Kunta Kinte. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que Kunta Kinte, c'était en plusieurs épisodes. C'était en plusieurs épisodes et tout. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué parce que ce gars qui était donc un esclave, hein, comme nous, nous avons connu l'esclavage, comme nos arrière-grands-parents ont connu l'esclavage. Donc lui, il était esclave. Et il faisait tout à chaque fois pour se libérer parce qu'il refusait donc de vivre en tant qu'esclave. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a également beaucoup touché parce que durant cette période-là, ça, en Guadeloupe, il y avait beaucoup, beaucoup d'activités. Rappelez-vous que dans les années 82-85, hein, il y avait ce qu'on appelait l'affaire Georges Faisan. Il y avait beaucoup de bombes qui pétaient en Guadeloupe. Non seulement les gars pétaient des bombes un peu partout en Guadeloupe, mais ils allaient également se cacher parce qu'ils étaient cherchés par la police. Certains venaient même se cacher, hein, chez des membres de la famille, ou la famille en tout cas, elle était un peu impliquée dans ça. Impliquée dans ça, et donc, on parlait beaucoup à l'époque donc, de Michel Renette, qui était parti en marronnage. La police le cherchait partout, tout ça. En plus de Michel Renette, donc Michel, je dis son nom et son prénom et son nom parce qu'il est très connu, mais il y en avait d'autres également qui marronnaient. Il y avait un chabin, peut-être que vous le connaissez, il s'appelait Max. Lui, je ne vais pas dire son nom de famille, mais Max. Max, il avait la particularité de se déguiser en femme. Et il marchait dans les rues de Pointe-à-Pitre, il était déguisé en mamie. Et le soir, il allait dormir chez des gens. Et très tôt le matin, il repartait avant que la police n'arrive. Hein. Et les gars marronnaient comme ça dans les villes. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'en plus, il y avait beaucoup d'inscriptions sur tous les murs et tout. Libérer la Guadeloupe et tout, etc. etc. Donc, un jeune petit bout, hein, de tenir 10 ans à peu près. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Durant cette période également, on m'a parlé d'un monsieur qui, après que j'ai étudié, parce que c'est un très, très grand écrivain, un très grand poète, qui a marronné également. C'est qui? Sonny Rupert. Sonny Rupert. Sonny Rupert, un grand, grand monsieur. Un grand monsieur, donc déjà un très grand poète. Il faut savoir que même dans la littérature française, on le compare à Baudelaire, donc c'est pas n'importe qui, hein. Sonny Rupert. Et donc vraiment je vous invite à lire ses poèmes, tant ses poèmes français que ses poèmes créoles également, qui sont vraiment magnifiques, vraiment magnifiques. Talin qui base des petits poèmes à Sonny Rupert également, toujours en son honneur, parce que c'était vraiment un grand grand monsieur. D'ailleurs, t'es qu'à dire autre pour nous commencer, t'es qu'à dire une belle petite parole, t'es qu'à dire comme ça. Depuis en temps diable petit garçon, nous l'a ramaché qu'on l'a oua grand été. Diable même jamais. Et pourtant, nous pouvons avancer en l'eau. Si nous bon l'on dit, chimé toujours. Mon et falaise, piquant, zodi. Crabe et cribiche qu'a fait derrière. Soudain qu'on close, soudain en zekalayo. Congolio et qu'on l'antenne qu'a traîné en la boue. Tobi qu'a fait de la cape. Mais nous, faut nous continuer à avancer. Et bien tout ça qui savent, ça travailler. Nous qui bitier, brûler, bourrer, planter, oser. Et si nous pas ni temps pour récolte, alors ce petit temps nous qui sorti en ouest.
C'est bon, là, tiens, allumé.
Ça va nous servir dans les bois. Voilà. Et vous pouvez faire passer maintenant.
Bon bah c'est bon, ça va.
Quelles étaient les raisons qui les poussaient à marronner? Parce que bon, il y en a une qui nous paraît tout à fait évidente, hein, ces gens, c'est rompre avec le système esclavagiste. Et parfois avec l'espace esclavagiste, parce qu'il y en a qui voulaient rompre avec le système et qui continuent à rester dans l'espace. Et il y en avait d'autres qui préféraient non seulement rompre avec le système esclavagiste, mais également quitter cet espace et aller vivre dans la forêt comme on est là. D'accord? Les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux, si moi t'ai ni l'argent, moi t'ai qu'à acheter habitation les roses pour t'embrouiller. Et on va dire comme ça que dans l'habitation les roses, eh bien, c'était une habitation où on vivait plus ou moins bien parce qu'on avait même le droit de cogner le tambour. Alors que d'autres habitations, c'était interdit le tambour. Et qu'est-ce qu'on faisait lorsque le tambour était interdit? Aïe aïe aïe, Guadeloupéen. Et plus que frapper les mains, ça, déjà on dit pas frapper les mains, qui j'en nous va dire ça?
Batman.
Ah ouais. Waka, donc waka là même. Et c'était le boulagel. Là, vous voyez, c'était le tambour était interdit. Et bien, on pouvait pas faire le tambour, on pouvait pas cogner le tambour. Et bien, on faisait le tambour avec la bouche, le boulagel. D'accord? Bon, mon petit boulagel, s'il vous plaît. Ça, c'est là, on va mettre d'autres sons et ça fait une musique extraordinaire. Donc des fois, ça pouvait être la maltraitance. Des fois, ça pouvait être simplement une visite. Par exemple, je vis dans une habitation, je suis sur une habitation, mais je sais que ma soeur ou ma mère est dans une autre habitation. Eh bien, je vais marronner, je vais aller visiter mes parents, et parfois même, je retourne dans mon habitation. Je peux marronner juste une petite nuit, et après, je retourne dans l'habitation. C'était des gars qui étaient très très mobiles et qui descendaient sur les habitations, qui massacraient les béquets, qui repartaient vivre dans la forêt. C'est un gars qui était particulièrement cruel, on te dit Jean Leblanc. Et c'est parce qu'on avait été également cruel à son égard. Donc il reproduisait les mêmes schémas, et on va en parler de tout cela. Lui, on l'a tué d'une sale façon, on l'a écartelé. Ce n'est d'ailleurs que depuis peu qu'on parle beaucoup de Delgrès, de Ignace, Massodo, Kotou, Kodou, Palerme, Gédéon, tous ces gens-là, ça. Et donc, les nègres marrons encore, ce n'est pas véritablement rentré dans notre histoire. Alors que, de la même façon que Zumbi dos Palmares a organisé son campement au Brésil, de la même façon que Queen Nani et Kujoué ont organisé également des campements à la Jamaïque, eh bien nous avons eu exactement la même chose en Guadeloupe. Et c'est ce qui a vraiment de plus passionnant sur l'histoire des nègres marrons.
Absolument, Lola. J'adore encore une section qui est particulière. Un lieu dit dans la forêt qui est très particulier qui s'appelle Mouzine. C'est très très loin, donc au fond de la vallée de la Bolivie de Desadis.
Monsieur Lolive, lorsqu'il est arrivé ici, il a demandé à ce qu'on massacre les Amérindiens. Les premiers Amérindiens qu'il a massacrés, ce sont les Amérindiens qui les ont aidés. C'est très important. Lorsque les premiers Français sont arrivés en Guadeloupe, je ne vais pas raconter toute l'histoire, je fais vite, mais lorsque les premiers Français sont arrivés en Guadeloupe, ils se sont installés du côté de Saint-Paul, au niveau de Tête-à-l'Aigle. Et lorsqu'ils se sont installés là, ils mouraient de faim, littéralement. Tellement que pour se nourrir, qu'est-ce qu'ils ont fait dans un premier temps? Ils mangeaient leurs chiens. Une fois qu'ils ont mangé tous leurs chiens, ils déterraient des cadavres et ils mangeaient les cuisses des cadavres. À un moment, il y a des Amérindiens qui habitaient du côté de Basse-Terre parce qu'on avait un grand campement d'Amérindiens qui partaient depuis la cathédrale de Basse-Terre et qui allaient jusqu'à Vieux-Fort, au niveau de l'Ostuc. C'était un immense village amérindien. Et ces Amérindiens, ils ont décidé d'aller chasser dans le grand cul-de-sac marin. Les Français ont exterminé très très rapidement les Amérindiens et les ont parqués véritablement entre la pointe des Châteaux et la pointe de la Grande Vigie. Un endroit où rien ne pousse, rien ne pousse. Donc tous les Amérindiens se sont mis à mourir de faim. Donc certains sont partis marronner à nouveau dans la forêt. Et lorsqu'ils ont été rencontrés par les nègres marrons qui venaient d'Afrique, eh bien ils ont même créé une communauté, notamment sur l'île de la Dominique. Ils ont créé un peuple qu'on appelle les Garifuna. Et les Garifuna, à un moment, étaient tellement puissants, c'est ce qu'on appelait des nègres à peau rouge. En anglais, on les appelait les Red Niggers. Mon papy, il était comme ça. Je dis souvent ça. Lorsque tu mettais mon papy au soleil, il avait la peau rouge. Sa peau était comme tannée par le cuir même. Et bien ces gens-là, ça, ils ont créé une communauté. Non seulement ils ont tissé des liens d'amour, ils ont commencé à faire des enfants ensemble, mais il y a eu un brassage au niveau de leur langue. Ils ont créé une langue, la langue Garifuna. Ils ont créé une culture, la culture Garifuna.
Nous ne connaissons pas le village, 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 nous ne connaissons pas le village,